émission spéciale. Aujourd'hui, appel sur l'actualité est à Cotonou. Juan Gomez.
Cotonou, soyez les bienvenus, merci de nous rejoindre. Nous poursuivons ce matin notre débat sur la lutte contre le terrorisme. Le Bénin, comme les autres pays côtiers du Golfe de Guinée, je pense évidemment au Togo, au Ghana, mais dans une moindre mesure également à la Côte d'Ivoire, tous ces pays sont confrontés à la menace djihadiste. Alors quelle stratégie, quelle coopération sous-régionale et internationale faut-il mettre en place pour relever le défi sécuritaire? Vous en parlez ce matin avec nos invités. Le colonel Herman Avocan, chef d'état-major de l'armée de l'air du Bénin. Janine Ella Abatan, chercheuse principale à l'Institut d'études de sécurité pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Et Nadia Nata, consultante indépendante sur les questions politiques et sécuritaires. Juste avant de rendre l'antenne à Paris pour la dernière édition d'Afrique Matin, Mokhtar à Niamey nous disait « Regardez, nous, pays du Sahel. » Et il citait évidemment le Niger, le Burkina Faso et le Mali, nous avons tiré les conséquences de l'opération Barkhane. Nous avons décidé de prendre en charge notre propre souveraineté sécuritaire. Ça vous a fait sourire à ce moment-là, Janine Ella Abatan. Pourquoi ? Expliquez-nous.
Non, je pense, comme il a dit, il est important de tirer des leçons de ce qui s'est passé au Sahel, mais aussi dans le bassin du lac Tchad. Mais ceci dit, on ne peut pas imposer le choix d'un partenaire à un pays. Chaque pays est souverain et peut faire ce choix. Par contre, dans le contexte sécuritaire actuel, il faut éviter que des considérations géopolitiques ou le choix de partenaires nuisent à la capacité, que ce soit des pays côtiers ou des pays du Sahel, de collaborer. Il faut une collaboration, il faut que les pays de l'AES collaborent avec le voisin des pays côtiers.
Et la coopération, elle est compliquée depuis que ces trois pays ont créé leur alliance, depuis que ces trois pays, qui, je le rappelle, sont dirigés par des putschistes, ont claqué la porte de la CEDEAO. Comment peut-on parler de coopération lorsque, justement, les voisins refusent ou en tout cas sont réticents à collaborer avec vous?
Je pense qu'il y a une ouverture à la collaboration aussi bien de la part des pays de l'AES, mais aussi des pays côtiers. Et il faut pouvoir capitaliser sur les canaux de communication en cours, que ce soit par le rôle joué par le Togo ou d'autres pays, pour pouvoir ouvrir ces lignes de collaboration. C'est une menace transnationale qui ne connaît pas de frontières. Il faut que les pays aillent au-delà des considérations géopolitiques, politiques, pour pouvoir collaborer. Sinon, on va pas arriver à bout de cette menace qui est régionale par nature.
Mon colonel, avant le coup d'État de juillet 2023 au Niger, la coopération était élevée, importante entre Cotonou et Niamey. Depuis, les relations se sont dégradées et forcément, par ricochet, vous allez me dire, oui, mais là, vous me faites parler politique et je ne peux pas parler politique, mais par ricochet, il y a des conséquences dans cette coopération militaire.
Monsieur Gomez, je voudrais faire constater qu'il est normal que les relations politiques impactent les opérations militaires. Mais comme l'a dit Madame Abatan, il faut rester vigilant. Et lorsqu'on pense à la nécessité de protéger sa population, il y a un minimum de coopération qui est nécessaire, je dirais même indispensable. Je peux confirmer que du côté du Bénin, nous faisons tout ce qu'il faut pour communiquer du renseignement militaire à nos voisins.
Au Burkina Faso?
À nos deux voisins.
Niger.
Toutes les fois que la situation se présente et nous jugeons qu'il était nécessaire qu'il soit prévenu, nous l'avons fait.
J'ai cru comprendre en vous écoutant, mon colonel, que les téléphones portables des militaires nigériens, burkinabés et béninois restaient ouverts. Je ne sais pas si ces téléphones sonnent souvent. En tout cas, Nadia Nata, c'est vrai qu'il y a un climat de méfiance depuis maintenant plus d'un an entre le Bénin et le voisin nigérien. Comment, dans ce contexte-là, relancer une coopération militaire pour lutter contre les djihadistes ?
Tout à fait. Je crois qu'au niveau militaire, c'est certain que, de part et d'autre, ils voient la nécessité de travailler ensemble. Le problème n'est pas forcément au niveau opérationnel, au niveau militaire. Le problème est plus peut-être au niveau diplomatique, politique, à cause des guerres géopolitiques ou des divisions au niveau des institutions, qu'elles soient de la CEDEAO ou de l'AES. Donc à partir de ce moment, au niveau opérationnel, si la coopération militaire se fait, c'est tant mieux. Mais c'est essentiel parce que ce travail ne peut se faire façon le partage de renseignements, il devrait y avoir des opérations conjointes, des droits de poursuite, et ça doit être autorisé par les autres en face. Je voudrais revenir par contre sur les propos de l'auditeur qui parle de souveraineté sécuritaire. Bon, c'est relatif, si on remplace la France par une autre puissance, on ne peut pas réellement parler de souveraineté, mais on ne peut pas gagner la guerre du terrorisme seul. Et donc à partir de ce moment, on ne peut pas supposer que même les pays sahéliens, Bamako a été attaqué récemment et c'est la capitale. Donc les coups d'éclat et les ravitaillements, tout ce que subissent les pays côtiers, les pays sahéliens continuent de le subir. Donc il faut une coopération et il faut utiliser les voies diplomatiques officielles, mais aussi officieuses pour rétablir cette coopération entre les États.
On va y revenir, mais on a des auditeurs qui s'impatientent au standard et je le comprends. Bonjour Fidèle.
Bonjour monsieur.
Aya Moussoukro, en Côte d'Ivoire, on vous écoute.
Je ne partage pas l'avis de votre invité qui a dit que l'opération Barkhane a échoué. Je ne suis pas d'accord.
Alors c'était un auditeur qui disait cela, effectivement, il y a quelques instants.
Une opération où la France a perdu plus d'une cinquantaine de soldats et qui a permis que Bamako ne tombe pas dans la main des djihadistes. On ne peut pas que dire que ça a échoué. Aujourd'hui, ils ont changé de partenaire avec la Russie. On prend le cas de l'attaque de Bamako en septembre 2024. On prend le cas de l'attaque le 24 août 2024 à Bassologo au Burkina Faso. Non, on ne peut pas me dire que c'est la France qui a échoué. Le changement de partenaire n'a rien apporté pendant tout combien d'années que la Russie est au Mali. Voilà donc.
Nadia Nathan, est-ce que le changement de partenaire a été positif pour ces pays-là? Est-ce que la Russie, pour dire clairement les choses, fait mieux que les soldats français de Barkhane?
Bon, écoutez, c'est relatif parce que je crois que la guerre n'est pas gagnée. Il y a des attaques qui persistent, qui se perpétuent. On voit que ça vient même vers les pays côtiers. Donc après, c'est chacun qui choisit les partenariats qui l'arrangent, qui correspondent à un certain moment.
J'entends bien, mais cet auditeur pose clairement la question. Est-ce que la Russie fait mieux quand on regarde l'évolution de la situation sur le terrain? Janine est là,
battant. C'est difficile de dire de façon claire que la Russie fait mieux parce que la guerre n'est pas gagnée. Il y a toujours des conséquences et beaucoup d'impact et de décès sur le terrain, avec des pertes en vies humaines, mais également en équipement. Et ça évolue. Donc, c'est difficile de dire c'est gagné ou pas gagné. C'est un peu ça, moi, mon point de vue.
Janine est là, battant.
Je pense que ce n'est pas le rôle des partenaires de faire la sécurité en Afrique de l'Ouest. C'est la responsabilité des États. Et au-delà de l'identité du partenaire, je pense qu'il faut s'interroger sur l'approche, la stratégie proposée par ce partenaire et l'impact réel sur la situation, sur le terrain, mais aussi sur les populations. C'est ça qui va changer la donne. Et je pense que ça offre aussi l'opportunité d'apprendre des expériences africaines. L'expérience de l'Algérie, de la Mauritanie, des pays du bassin du lac Tchad, qui peuvent servir d'exemple pour les pays côtiers. Mais ce n'est pas aux partenaires de faire la sécurité à la place de nos États.
Mon colonel, Herman Avocan.
Oui, je voudrais ajouter que l'opération Mirador, c'est des Béninois qui sont déployés, qui travaillent au quotidien. D'abord, on compte sur nos propres forces. Ensuite, pour nous, il est nécessaire d'avoir une coopération avec les États qui sont les plus proches de nous et qui partagent les mêmes réalités. Au Bénin, par exemple, nous partageons deux parcs avec le Niger et le Burkina. Et c'est de là que viennent les incursions. Donc, il est nécessaire pour nous d'échanger des informations avec les voisins. Ensuite,
ce qui n'est pas forcément le cas, excusez-moi,
je vous interromps. Ce qui n'est pas forcément le cas,
mais mon colonel, vous êtes conscient effectivement du dispositif qui est déployé dans votre partie, le nord du Bénin. Avez-vous des informations concernant le dispositif militaire déployé de l'autre côté de la frontière?
Nous avons une idée du dispositif militaire de nos voisins. Et ce n'est pas la même stratégie qui a été adoptée. Donc je disais que le partenariat stratégique est aussi nécessaire. Déjà, dans la sous-région, je peux citer la coopération militaire avec le Togo. Nous échangeons beaucoup de renseignements. Ça se passe très bien de ce côté. Je peux citer les États-Unis, l'Union européenne, qui nous offrent un avion de surveillance et un deuxième avion pour faire les évacuations sanitaires et beaucoup d'autres mesures. Ça, c'est du concret, par exemple.
Merci beaucoup, mon colonel. Au standard, Achille est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
À Abidjan, Côte d'Ivoire, vous disiez au standard, la lutte contre le terrorisme ne doit pas être exclusivement militaire.
Elle ne se peut être militaire parce que lorsqu'elle devient militaire, elle est déjà perdue. parce que pour moi, la lutte contre le terrorisme, c'est avant tout une activité proactive. Elle doit être menée sur le front social, sur le front économique et sur le front infrastructurel. Donc, il faut créer de la coopération, surtout entre les différents peuples qui vivent dans ces régions-là. Par exemple, je prends le cas du nord de la Côte d'Ivoire,
oui,
où il y a des éleveurs qui cohabitent avec des agriculteurs. Si vous n'arrivez pas à gérer cette collaboration et qu'il y a des accords, les terroristes et les djihadistes vont automatiquement s'introduire dans ce désaccord pour créer déjà un point de force et commencer à opérer. Il faut aussi sortir les gens de la pauvreté, parce que le djihadisme, c'est avant tout l'exploitation de la misère des peuples.
Et visiblement, cette politique qui est menée en Côte d'Ivoire depuis maintenant quelques années porte ses fruits, puisque la dernière attaque subie par votre pays remonte à il y a maintenant 4 ans. Côte d'Ivoire qui, à la fois, effectivement, mise sur l'option militaire, mais en même temps sur le volet social. On en parlait tout à l'heure de l'importance, justement, de mettre en place des programmes spéciaux, notamment pour aider la jeunesse dans ces régions qui, bien souvent, ont, à tort ou à raison, le sentiment d'être oubliées par l'État. Et donc, ça représente un terreau fertile pour les djihadistes.
Une étude des Nations Unies a clairement démontré que beaucoup n'adhèrent pas par idéologie, beaucoup adhèrent pour des questions de vulnérabilité socio-économique, comme vous l'avez dit tantôt.
Un groupe djihadiste peut arriver dans un village et promettre à la moitié des jeunes du village une mobilette pour chacun, et ça suffit pour être enrôlé.
Ça pourrait suffire, mais au-delà de ça, ce n'est pas ça qui est fondamentalement le problème. Quand vous appartenez à un État, nous avons des États qui ne sont pas forcément des nations, donc il y a ce sentiment d'abandon qui existe pour certaines communautés parce qu'elles se sentent un peu loin des réalités du niveau central ou abandonnées parce qu'il n'y a pas les services de base, l'éducation n'est pas très efficace là-bas, il n'y a pas les services de santé, parfois il n'y a pas l'accès à l'eau, il n'y a pas les infrastructures routières. Donc quand après on vient vous dire que c'est parce que vous ne comptez pas parce que vous êtes une sous-population, une sous-composante ethnique du pays, à partir de ce moment, vous voyez ces griefs-là qui sont construits et ils viennent, ils vous disent, dans certains pays, on l'a vu même avec Al-Shabaab en Somalie, ils vous donnent l'eau, ils vous donnent accès à la sécurité, ils essaient de se substituer à la justice quand vous avez des conflits intercommunautaires. Donc tout ça permet également d'avoir l'adhésion de ces populations-là. Ce n'est pas seulement matériel, mais c'est ce sentiment de reconnaissance qu'ils leur fournissent, qu'ils ne pensent pas recevoir de l'État.
Ouais. Le temps passe très vite, malheureusement, et il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on accueille Gilbert, qui nous écoute à Accra. C'est juste à côté, au Ghana. Bonjour Gilbert.
Bonjour Monsieur Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous disiez que votre pays, le Ghana, ne constitue pas une cible prioritaire pour les terroristes.
Oui, évidemment, le Ghana ne constitue pas une cible pour les organisations terroristes, dû au fait que le Ghana a toujours mené une politique extérieure de pacification. Et puis aussi sur le plan interne, la coexistence pacifique des communautés religieuses est une priorité de l'État et on n'a pas connu, n'est-ce pas, dans le pays, des heures qui ont des connotations religieuses. Mais en tout cas, dans le nord du Ghana, il y a c'est une zone de violence, mais des violences qui sont ethniques, des conflits entre communautés, mais cela ne dépasse pas ces dissensions internes ethniques, mais cela peut représenter une opportunité pour les organisations terroristes ou bien les groupes extrémistes pour l'exploiter.
Donc vous êtes en train de nous dire qu'il faut régler au plus vite ces tensions intercommunautaires pour éviter qu'elles n'en profitent aux groupes djihadistes. Nadia Nata, je vous voyais écouter attentivement Gilbert à Accra et vous n'aviez pas l'air d'approuver ses propos.
Je voudrais juste qu'on relativise un peu. D'abord, l'objectif premier, comme le premier auditeur l'a dit, il y a l'accès au golfe de Guinée. Et tous les pays côtiers sont intéressants pour ces groupes-là. Il y a la piraterie maritime, les trafics qui vont s'en suivre. Donc, c'est une stratégie d'expansion. Ça, c'est un.
Ouais.
Deux, tous les pays, dans un premier temps, même ceux qui sont aujourd'hui, c'est évident, touchés, avant parlaient de groupes criminels. Ils ne voulaient pas reconnaître officiellement qu'il y avait des attaques djihadistes sur leur territoire national. Donc, souvent, ces conflits intra- ou ou intercommunautaires sont utilisés comme des motifs pour justifier un peu...
Pour justifier l'insécurité.
Alors qu'au niveau sécuritaire, défense-sécurité, peut-être qu'ils ont des renseignements que nous n'avons pas encore, qui ne sont pas du domaine officiel et qui peuvent un peu relativiser. Ensuite, vous savez, ces groupes, avant que vous ne voyez la première attaque, ils sont déjà présents. Ils infiltrent. C'est des bases arrières, c'est des bases logistiques. Et ça leur donne l'occasion de faire leur repérage, de se renseigner. Aussi, vous allez voir que de plus en plus, il y a des recrutements au niveau des Ghanéens, les zones frontalières, dans les groupes qui opèrent au niveau du Burkina et autres. Donc on ne serait pas surpris d'apprendre très bientôt qu'officiellement, il y aurait peut-être une attaque au niveau du Ghana. C'est pour ça que
officiellement, on parle beaucoup d'une exception ghanéenne, car il n'y a pas eu à ce jour d'attaque djihadiste en tant que telle, ou en tout cas désignée comme telle par les autorités. Justement, Janine est là à battant sur cette exception ghanéenne.
Il n'y a pas d'exception ghanéenne. Dans nos recherches, on voit clairement que des Ghanéens financent le recrutement en Côte d'Ivoire. Ils financent aussi ces groupes par leur paillage illicite. Donc, il faut aller au-delà de ces manifestations visibles, continuer à faire de la prévention là où l'insécurité est visible, mais aussi là où l'insécurité n'est pas pour le moment visible.
Allez, un dernier auditeur pour terminer l'émission. Bonjour Alpha Ousmane.
Bonjour Juan, je salue notre éminent invité, je salue l'ensemble des auditeurs de la RFI.
Vous êtes en
Guinée. La grande radio.
Merci de vos encouragements. Vous êtes à Conakry en Guinée. Alors, ce qui est intéressant avec votre remarque, c'est que vous êtes le seul depuis le début de cette émission à dire et si nous essayons de dialoguer avec ces groupes.
Oui, monsieur Juan, moi le dialogue me tient beaucoup à cœur. Parce que si vous voyez, vu la progression des djihadistes et les terroristes dans la sous-région ouest africaine, les États doivent non seulement doivent organiser des conférences nationales et en faisant du dialogue avec les terroristes et les djihadistes pour assurer la sécurité et pour le partage équitable du pouvoir.
Je ne sais pas quel pouvoir des États civils voudraient partager avec des djihadistes, mais l'idée du dialogue, Janine est là à battant, elle vous semble pertinente, nécessaire ?
Oui, ça a déjà été exploré par les pays du Sahel, mais aussi les pays du bassin du lac Tchad. Aucune solution ne peut être exclue face à cette menace.
Donc on s'assoit autour d'une même table avec les djihadistes et on négocie quoi ?
Il faut savoir ce qu'il faut négocier. On négocie quoi ? À quelle fin ? Et je pense que ce dialogue doit se faire à plusieurs niveaux. Dans ces groupes, si on considère ces groupes comme des pyramides, on a le leadership et on a ceux qui adhèrent pour plusieurs motivations, que ce soit les questions d'injustice, de gouvernance. Avec ces personnes-là,
on peut proposer... Bien souvent, les djihadistes, l'objectif, c'est d'instaurer un califat,
ça, c'est le leadership.
De remettre en cause la laïcité. Ce sont des lignes rouges qu'aucun pays de la sous-région ne veut franchir.
Voilà, ça, c'est le leadership. Mais à part le leadership, on a tout ce qu'on appelle les foot soldiers avec qui c'est nécessaire d'engager ce dialogue parce qu'ils sont des ressortissants de ces pays et cette option a déjà été explorée dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest.
Merci infiniment, Janine est là à battant. Nadia Nata, votre mot de la fin, votre conclusion justement concernant le dialogue, l'option doit être sur la table ?
Oui, dialoguer après avec qui et pourquoi. Donc il faut clairement définir les objectifs d'un tel dialogue et surtout accorder la priorité aux nationaux qui collaborent, qui coopèrent, qui sont impliqués, parce que c'est la première façon de désamorcer les interventions, parce qu'ils ne sont pas implantés ici, comme on l'a vu par ailleurs.
Colonel Herman Avocan, chef d'état-major de l'armée de l'air du Bénin, le mot de la fin.
Je voudrais rassurer la population béninoise en disant que les forces de sécurité et de défense sont déployées pour faire barrage aux groupes armés terroristes. Et nous voudrions lancer un appel aux populations pour qu'elles coopèrent, pour que nous puissions produire ensemble leur sécurité. Enfin, je voudrais avoir un mot pour tous les soldats et tous les civils tombés dans le cadre de cette lutte. Merci.
Merci infiniment à tous les trois d'avoir accepté de dialoguer avec les auditeurs de RFI. Demain, nous serons de nouveau à Cotonou à la veille du 35e anniversaire de la Conférence nationale souveraine du Bénin. Une initiative qui a fait école, hein, puisque de nombreux pays se sont inspirés sur le continent africain de ces assises pour à leur tour instaurer le multipartisme. Où que vous soyez sur le continent, demain, racontez-nous comment s'est déroulée la Conférence nationale dans vos pays respectifs. décennies après, que reste-t-il de l'euphorie de l'époque? J'espère que vous serez nombreux. En tout cas, d'ores et déjà, l'émission sera forcément intéressante. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à présenter cette émission. Jessica Taïeb, Nicolas Benita, Damien Houlez, Benoît van der Broek, Yasmine Boulan, Maud Georget, Fouque Foller. Un grand merci également à Jean-Luc Aplogan, correspondant de RFI à Cotonou. Merci de son aide précieuse. À suivre dans 10 minutes, juste après le journal Priorité Santé, Caroline Paré, quand l'addiction fragilise la famille. Bonne journée, prenez soin de vous et à demain, 8h10, TU.
L'appli de Banque Atlantique, Atlantique Mobile, la meilleure expérience de banque à distance, vous a proposé appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandit.